Mais c'est vrai que de ce fait, on a parfois l'impression que tous les différents sujets d'environnement sont traités parfois un peu indépendamment les uns des autres. Qu'il y a un sujet sur les feux de forêt en Amazonie, puis un sujet sur le rapport du GIEC, un sujet sur le sommet climat, un sujet sur les manifestations des jeunes, et que finalement l'aspect systémique de toutes ces crises écologiques ou crises environnementales risquait parfois de passer un peu au-dessus de la tête de monsieur et madame tout le monde. J'étais frappé par exemple en discutant avec mes parents, qui sont, je dirais, des gens intéressés et concernés en tant que citoyens, mais pas du tout spécialistes du sujet, que mes parents s'imaginent que les incendies en Amazonie étaient des incendies accidentels par exemple. Et donc je lui disais, mais pourquoi n'envoie-t-on pas tout de suite une armée de Canadairs pour éteindre ces incendies?
On fait beaucoup de barbecue,
On fait
nous.
beaucoup d'envie. Et qui s'imaginait encore qu'effectivement la déforestation se pratiquait à la tronçonneuse, arbre par arbre. Et donc, dans notre entourage, on avait de plus en plus des gens qui étaient de plus en plus concernés et sensibilisés à ces questions, mais qui parfois manquaient des clés et manquaient des données, et qui manquaient, je dirais, d'une vision systémique de l'ensemble de ces crises. Et c'est comme ça que Julie Gazier m'a donc proposé à moi, à Alexandre Arankovitch, qui est plutôt spécialiste des questions de biodiversité, et à l'atelier de cartographie, de rassembler en un seul volume l'ensemble des données disponibles sur ces différentes crises, c'est-à-dire au fond sur l'Anthropocène, qui est un terme encore relativement peu connu du grand public, mais qui nous semblait important et intéressant à populariser via un atlas grand public. Et on a donc consacré différents chapitres à ces différentes crises en essayant de montrer chaque fois à quel point elles étaient impliquées les unes dans les autres. Là où il restait des controverses scientifiques ou des incertitudes, sur chaque sujet, on essaie de faire le point sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas encore. Et ça nous paraissait aussi important d'avoir une sorte d'iconographie et de cartographie un peu harmonisée, intégrée. Donc il y a eu un gros travail de l'atelier de cartographie de Sciences Po pour harmoniser toute une série de données, notamment pour les mettre aux mêmes échelles de temps, etc., de manière à ce que les gens puissent en quelque sorte comparer les différents problèmes, puisque le problème, c'est que les données, les informations sur ces différentes crises proviennent souvent d'organismes différents, qui utilisent des méthodologies différentes, des unités d'analyse différentes, et donc on a fait une sorte de travail d'harmonisation. Et moi, je crois beaucoup que la solution à un problème dépend beaucoup de la représentation qu'on se fait du problème. Et donc l'idée de l'Atlas, c'est de mettre entre toutes les mains une sorte de représentation systémique de ces différentes crises qui montre aussi les causes de ces crises et donc autant de leviers d'action pour en sortir, en précisant bien qu'il n'y a pas forcément une recette miracle, mais que toute une série de leviers d'action, depuis les gestes du quotidien jusqu'aux mobilisations dans la rue et aux grèves pour le climat, sont importantes et font partie d'un même ensemble. Voilà, c'est ça l'ambition. Après, ça a demandé un travail évidemment assez conséquent d'environ 2 ans, notamment d'harmoniser les textes avec les données, les graphes. Et on souhaite vraiment que l'Atlas soit une sorte de ressource pédagogique, au sens propre du terme, à la fois pour des journalistes qui sont amenés à parler de ces sujets et qui parfois ont besoin de données ou d'un graphe pour illustrer ou d'une carte pour illustrer, mais aussi d'enseignants, d'étudiants et de gens comme mes parents, qui, je pense, vont trouver ainsi toute l'information rassemblée dans un ouvrage à portée du grand public. Enfin, j'espère qu'il est à portée du grand public, mais je crois que c'est assez lisible. Et qui essaye aussi de conceptualiser cela comme l'Anthropocène, c'est-à-dire, vous le savez, cette nouvelle période géologique caractérisée par l'empreinte de l'homme sur Terre. Et donc qui est très bien mise, je trouve, en lumière, à la fois par Jan Chaljevic, qui est un géologue, qui est le président de la Commission internationale de stratigraphie, c'est-à-dire la commission qui est chargée de déterminer l'Anthropocène et la date d'entrée dans l'Anthropocène, et puis la postface qui a été rédigée par Bruno Latour et qui donne évidemment un caractère philosophique et métaphysique à cette ère nouvelle.
Est-ce que justement le fait de montrer que tout est dans tout et réciproquement, ça peut pas faire peur finalement, parce qu'on se dit, mais si c'est autant imbriqué, quels sont les leviers d'action dont on dispose? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment foutu?
Je pense qu'un grand message, effectivement, par rapport à ça, c'est de montrer que les leviers d'action sont très politiques et que, au-delà, effectivement, de ce qu'on peut faire chacun pour faire attention à son empreinte carbone ou à la biodiversité, il y a derrière cela des leviers systémiques qu'il faut pouvoir actionner. Donc, je crois que l'Atlas essaie de parler aux gens davantage en tant que citoyen qu'en tant que consommateur. Et effectivement, je peux concevoir que ça puisse être un peu pesant d'avoir toutes les données d'un cours rassemblé, mais l'avantage, c'est que c'est aussi autant de leviers politiques et sociétaux qui peuvent aussi résoudre plusieurs problèmes d'un coup.
Par exemple ?
Par exemple, je pense aux incendies en Amazonie qui touchent à la fois aux questions de climat, aux questions de biodiversité, aux questions d'agriculture, aux questions de commerce international et au-delà aux questions de gouvernance mondiale et de souveraineté. Et donc on voit globalement que si on parvient à trouver une façon de gouverner l'Amazonie en tant que bien public mondial, on résout aussi toute une série de questions d'un seul coup. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres.
Est-ce qu'on peut feuilleter peut-être un peu le bouquin et présenter les grandes thématiques qui sont évoquées, et puis peut-être engager le débat ou la discussion ?
Bien sûr. Donc on a divisé l'affaire en 7 chapitres. On commence avec l'ozone, qui était finalement le premier problème environnemental mondial, et en essayant de tirer les leçons des mécanismes qu'on a mis en place pour réduire les émissions de CFC et réduire donc la taille du trou dans la couche d'ozone. On arrive aux questions de climat et de biodiversité, évidemment, qui sont deux sections tout à fait importantes. Je veux dire qu'avant l'ozone, il y a une section qui présente la question de l'anthropocène et les différents débats qu'elle suscite sur le nom, sur son début, etc. Et puis alors, on a une section sur les questions de pollution, que ce soit de pollution plastique, pollution sonore, pollution visuelle, pesticides, etc., ou marée noire, accident nucléaire. En une section sur les questions de démographie et de mode de vie, qui est vraiment un sujet qui, je pense, touche au quotidien de beaucoup de gens, où on essaie de leur faire percevoir, notamment, quelle est la place de certains modes de consommation qu'ils ne soupçonnent pas, par exemple. La pollution numérique, par exemple, quelle est l'empreinte carbone du visionnage d'une vidéo sur YouTube, ou ce genre de choses. Et puis une dernière partie qui est plus politique, où on regarde ce que l'on a fait politiquement au niveau international, avec les différents sommets, la diplomatie, mais également ce qui se passe en termes de désinformation, en termes de financement. Il y a toute une planche sur les questions de financement et d'investissement dont on parle assez peu dans le débat public. Et puis il y a évidemment une planche consacrée aux mobilisations à la fois des jeunes, mais aussi des activistes pour le climat et l'environnement qui restent assassinés de façon impunie dans un grand nombre de pays.
Oui. Vous évoquiez tout à l'heure l'aspect systémique des enjeux climatiques. Vous dites ensuite que l'Amazonie est un bien public mondial et on se heurte au président brésilien Bolsonaro qui invoque une question de souveraineté.
Oui.
Justement, donc on a effectivement cette contradiction. Le fait que les dirigeants politiques ne considèrent pas le sujet comme étant un sujet systémique et international, mais comme un sujet national.
Tout à fait. Et c'est certain que je vois toute une série de mesures qui sont déployées pour venir en aide à l'Amazonie, etc. Et qui, je pense, passent un peu à côté du problème premier, c'est que Bolsonaro n'en veut pas. Et que tant que Bolsonaro sera là, on pourra prendre toutes les initiatives et tous les fonds qu'on voudra pour essayer de sauver l'Amazonie. Si quelque part, le président brésilien ne veut pas que l'Amazonie soit sauvée et veut l'exploiter comme une ressource économique, il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, je me suis demandé pourquoi on ne travaille pas davantage, quelque part, avec Bolsonaro, soit à veiller à ce qu'il ne soit pas réélu à la prochaine élection, soit à lui faire comprendre potentiellement l'intérêt, y compris financier et économique, qu'il aurait à une coopération internationale sur le sujet. On a vu l'accord entre la Norvège et le Gabon. La question, pourquoi est-ce qu'on ne propose pas ce genre de deal aussi à Bolsonaro?
C'était un petit peu ce que voulait le précédent gouvernement.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de communication? Parce qu'on met le zoom sur Bolsonaro parce qu'il a une grande gueule, parce qu'il dit des trucs horribles, etc. Et l'Amazonie n'est pas que le Brésil. Alors que Evo Morales offre à M. Macron une statue, Macron est ravi. Là, elle annule, là. Hein? Et l'un de ceux qui a ordonné, accepté, qu'on brûle l'Amazonie côté bolivien, c'est bien Evo Morales, personne n'en parle. Le Venezuela, c'est un désastre, il y a un blackout d'informations hallucinant, et c'est un désastre, et personne n'en parle. Mais c'est celui qui gueule le plus, là où on met les zooms.
Et la question de l'Amazonie, si vous permettez, est bien antérieure à Bolsonaro.
À Bolsonaro, exactement.
Ce dont vous vous désolez, je crois, est en fait relativement réjouissant. Ça prouve que l'environnement est devenu un sujet politique et diplomatique majeur qui, effectivement, va être instrumentalisé par toute une série de dirigeants. Et c'est quelque part le revers de la médaille. Mais ce sujet de l'Amazonie dont personne ne se serait tracassé il y a encore 3 ou 4 ans. Jamais la France n'aurait risqué une crise diplomatique avec le Brésil sur la question de l'Amazonie il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet politique et diplomatique majeur qui donc effectivement va cristalliser certaines oppositions, va être sujet, je crois, à certaines instrumentalisations. Et le président Macron a bien compris la manière dont il pouvait instrumentaliser le sujet pour conforter sa stature diplomatique internationale. Effectivement, c'est la preuve, quelque part, que l'environnement est rentré de plein pied dans le débat public comme un sujet politique majeur.
Et la France n'a pas cessé de planter le soja brésilien ?
Bien sûr.
Les business du jour.
C'est pour ça que je dis, ça met en cause aussi les questions de commerce international et d'agriculture, et pas seulement les questions de biodiversité et de climat.
J'avais juste une question. Vous avez choisi de faire votre thèse sur l'anthropocène, mais qu'est-ce que vous pensez de la notion de capitalocène, par l'idée que, au final, voilà, c'est juste à partir de la révolution industrielle que ça aurait mal tourné.
Tout à fait. Nous la discutons en détail, page 25. Mais effectivement, il y a tout le problème de l'anthropocène, je crois, c'est que il donne l'idée que tous les hommes et toutes les femmes sont également responsables des dégradations de l'environnement et que tout le monde, au fond, est dans le même bateau. Alors que la réalité, c'est que c'est quand même une minorité d'hommes, essentiellement d'hommes blancs, qui sont les principaux responsables, et l'essentiel de l'humanité est victime, bien davantage que responsable, de cette transformation. Je crois que c'est le défaut du terme anthropocène. Mais ce défaut amène à un gros avantage, un grand mérite du terme, qui est, je crois, de nous faire nous envisager nous-mêmes comme terriens, avant de nous faire nous envisager comme étant citoyens de différentes nations. Et je crois que c'est quelque part l'appel positif de l'anthropocène, c'est de nous réapproprier le concept d'habitant de la planète, de terrien littéralement, et donc d'imaginer que notre action n'est plus définie par nos frontières nationales, mais est définie par les frontières écologiques, les fameuses limites que Rockström et sa bande avaient identifiées. Et je crois que c'est là que se trouve la véritable frontière désormais. Mais nous discutons effectivement ces appellations un peu concurrentes, capitalocène, oliganthropocène, etc.
Militarocène,
etc. Pour effectivement souligner les faiblesses et les mérites du terme. Je pense qu'au fond, ça désigne la même réalité, mais effectivement, la manière dont on l'appelle n'appelle pas potentiellement le même type de solution.
Est-ce que le livre répond à la question, quelle est finalement la meilleure gouvernance pour l'environnement? Est-ce que c'est une gouvernance nationale, régionale? Est-ce que c'est une gouvernance onusienne? Ou est-ce qu'il n'y a pas de réponse à la question?
Je pense qu'il y a une réponse à la question. Je ne suis pas sûr que le livre n'a pas pour but d'apporter des réponses et de dire aux gens comment penser. Le livre a plutôt pour but de donner les clés de compréhension et puis après, chacun se fait son opinion. Mon opinion, c'est que les niveaux de gouvernance qui sont les plus pertinents et les plus importants à l'avenir, ça sera à la fois le niveau local et le niveau global. Et on aura besoin de toute une série de politiques locales très importantes, et on voit bien l'importance que les villes, par exemple, prennent dans le débat sur le changement climatique et les leviers d'action qui sont disponibles au niveau municipal. Et en même temps, il y a toujours ce grand besoin de coopération internationale et de gouvernance globale, auquel moi je continue à croire beaucoup. Et le paradoxe, je crois, c'est qu'aujourd'hui, le débat politique reste focalisé sur le niveau national des gouvernements. Ça reste l'élection majeure, bien avant les élections municipales ou les élections européennes, par exemple en France, et l'essentiel des pages politiques des journaux reste consacré à la politique nationale avant d'être consacré à la politique européenne, à la diplomatie onusienne ou à la politique locale. Je pense que ce niveau national, en fait, sera le niveau qui deviendra à l'avenir le moins pertinent. Et je pense que de plus en plus, il va y avoir une sorte d'écartèlement entre le niveau local et le niveau international qui vont prendre de plus en plus d'importance. Et il va y avoir au niveau national toute une série de gens qui vont se raccrocher effectivement à cet ancien monde et à cet ancien niveau de gouvernance. Et c'est ça qui explique aussi, je crois, largement aujourd'hui la montée en puissance des souverainismes et des nationalismes, c'est-à-dire les tenants du vieux monde qui sentent bien que quelque part ça va éclater et qui vont se raccrocher jusqu'à leur dernier souffle à ce qui fait encore le cadre de leur existence.
Vous ne pensez pas quand même qu'il y a une tension entre le fait qu'aujourd'hui, la plupart des clés réglementaires et législatives qui permettraient de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité se trouvent au niveau national?
Oui.
notamment la manière de réglementer les échanges économiques entre les gens d'un même pays, les différents documents qu'on doit remplir avant de construire un bâtiment industriel ou ce genre de choses. Il y a récemment Édouard Philippe qui a décidé, qui a validé le fait de revenir sur certains règlements de protection de l'environnement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème entre le fait que ces décisions se prennent à ce niveau-là national, mais que la compétition économique se joue au niveau international? Enfin, est-ce que pour vous, il n'y a pas un point de tension là-dessus?
Complètement. Je pense que c'est un gros point de tension, effectivement, le fait que les gouvernements nationaux disposent encore, en tout cas sur papier, d'un moment de levier. Et c'est pour ça, je pense, que le retrait américain de l'accord de Paris est très très grave, quoi qu'on ait dit que la société civile ou les villes allaient compenser. Je pense qu'il reste énormément de leviers dans les mains des gouvernements. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est encore pertinent que ces leviers soient aux mains des gouvernements? Et je trouve que le sommet de lundi à l'ONU était assez intéressant, même si on est d'accord que c'était globalement un échec en termes d'engagement, était assez intéressant dans son format. C'est-à-dire qu'à la tribune ne passaient pas que des représentants de gouvernement, mais passaient aussi des représentants de la société civile. Tout le monde a retenu évidemment le discours de Greta Thunberg, mais il y avait aussi des représentants des villes, des représentants des industries, qui faisaient des discours et qui prenaient des engagements et qui faisaient des annonces à peu près sur le même pied que les chefs d'État ou les représentants des gouvernements. Et ça me paraît assez significatif comme évolution, quelque part, de la gouvernance mondiale qui, je pense, va aller de plus en plus vers une inclusion de la société civile et de différents partenaires et ne va pas rester cantonnée au seul gouvernement. Et il y a encore quelques années, on n'aurait pas imaginé que parle à la tribune de l'ONU un sommet chef d'État des gens comme Greta Thunberg, par exemple.
Vous ne pensez pas que l'action des villes ou l'action des personnalités de la société civile au niveau international, plus que d'avoir des conséquences directement concrètes sur la manière, enfin sur la marche du monde, la manière dont sont régulés les échanges, etc., va en fait créer une forme de pression sur la classe, sur les classes politiques nationales, qui elles ont toujours ces moyens de levier. Enfin, est-ce que pour vous ça se passe pas plutôt comme ça?
Pour le moment, oui. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'à l'avenir, précisément, ces politiques nationales ne soient pas de plus en plus dépecées et dépassées. Je suis frappé comme à ce sommet, précisément, les principales annonces, en fait, elles venaient plus d'organisations non étatiques. À part la décision de la Russie de ratifier l'accord de Paris, qui est venu un peu comme une surprise générale, mais l'essentiel des annonces les plus marquantes, c'était sur les entreprises qui renonçaient à des centrales à charbon ou à certains investissements. Et quelque part, on avait l'impression que les États étaient dépassés un peu par le mouvement de la société civile et des entreprises.
Et justement, on voit aujourd'hui, depuis quelques mois, la société civile qui se réveille, notamment en Europe, en Belgique beaucoup, en France beaucoup moins, et au Royaume-Uni un peu plus. Est-ce que tout ça, ça fait partie de cet éveil, de cette sensibilisation, ou est-ce que c'est un épiphénomène
Je pense que les gens se réapproprient cette question en tant que citoyens. Et que jusqu'ici, ou jusqu'à encore 2 ou 3 ans, les gens abordaient la question principalement en tant que consommateurs et voyaient les questions d'environnement comme un sujet un peu technique et scientifique, qui allait se régler par des mesures techniques et scientifiques. Pour donner un exemple caricatural, on avait supprimé les pailles du McDonald's. Et je pense que de plus en plus, les gens se réapproprient cette question comme citoyens et réalisent effectivement l'importance des choix collectifs et des réorientations des choix collectifs. Et ça, à mon avis, c'est le gros mérite des mobilisations, c'est d'avoir replacé la question du climat et plus globalement de l'environnement auprès des citoyens davantage qu'auprès des consommateurs. Et le gros enjeu, et je pense la grosse tension pour nos démocraties, c'est comment on fait pour que les gens se réapproprient comme citoyens toute une série de choses qu'ils faisaient comme consommateurs. Je suis frappé du nombre de gens qui se sentent encore impuissants par rapport à cela, en disant, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau? Je fais tout ce que je peux pour rouler à vélo ou pour acheter des fruits et légumes de saison, mais si la Chine fait ceci et si les grandes multinationales font cela, qu'est-ce que je peux faire, moi? Et je pense que ça risque, effectivement, la crise démocratique aujourd'hui, je pense que c'est parce que beaucoup de gens se sentent complètement aliénés par rapport aux choix collectifs et ont l'impression qu'ils n'ont plus du tout de poids et d'influence dans les choix collectifs. Et donc je pense que la lutte contre le changement climatique ou pour la préservation de l'environnement peut aussi être une façon pour les gens de se réconcilier avec la démocratie et de réaliser le poids qu'ils ont dans les choix collectifs aussi. À condition que les gouvernements se saisissent du sujet et parviennent à quelque part à transformer l'essai.
Les mobilisations, c'est aussi en France, en 2017, un nouvel exécutif qui décide de renforcer la trajectoire de la contribution climat-énergie, donc la taxe carbone, et puis quelques mois plus tard, le mouvement des Gilets jaunes, enfin quelques mois, un peu plus, un an et demi plus tard, 15 mois plus tard, le mouvement des Gilets jaunes, et le gouvernement qui gère la taxe carbone et qui revient sur cette hausse de la trajectoire. Donc les mobilisations, elles vont dans les deux sens.
Tout à fait. Et je pense, contrairement à ce que beaucoup disent aujourd'hui, qu'il y a une sorte de convergence naturelle entre le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement climat, je pense que cette convergence n'est pas si naturelle que ça. Et que autant il peut y avoir des points d'accord et de convergence, autant il y a encore des différences complètement fondamentales, notamment sur des questions de fiscalité ou sur des questions de pouvoir d'achat. Et sur des questions de mode de manifestation et de mode d'action. Et on voit bien le fiasco que ça donne lorsqu'on essaye, je dirais, de faire converger les deux types de manifestations qui sont des manifestations fondamentalement différentes, je pense, dans leur approche. Et je pense qu'en fait, le mouvement climat court un gros risque en s'alliant avec la question des Gilets jaunes, notamment parce que je pense qu'il risque de s'aliéner des pans entiers de la société, et parce que je pense que le mouvement des Gilets jaunes est beaucoup plus clivant dans la société française que ne l'est, par exemple, le mouvement pour le climat.
Je reviens juste avant la question. Est-ce que vous avez parlé, par exemple, du règlement de l'ozone, enfin de la question de l'ozone dans votre ouvrage? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait mettre plus en avant, ces sortes de réussites d'une certaine manière collective? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même un peu abasourdi, et je reviens justement à cette manière pour les gens de penser qu'ils n'arriveront à rien, ni au niveau individuel, ni de fait au niveau collectif. Parce que souvent, on a l'impression qu'il n'y a pas de réussite au bout possible, tellement les problèmes sont incommensurables, quoi. Et est-ce qu'on ne devrait pas remettre vraiment en lumière ce type de choses qu'on a un peu oubliées, parce que ça...
Je suis absolument d'accord. Toute mobilisation et tout combat collectif a besoin, à un moment donné, d'engranger certains succès. Même s'ils sont petits, même s'ils sont insuffisants, il y a besoin aussi pour, quelque part, galvaniser les troupes et se dire qu'on progresse. Et je ne suis pas d'accord avec l'idée, même si c'est vrai que les indicateurs passent de plus en plus de l'orange au rouge, il y a quand même un certain nombre de progrès qui sont enregistrés. Depuis l'expérience de la Belgique, où donc il y a eu de très importantes mobilisations des jeunes, c'est quelque chose qui a eu une énorme influence à la fois sur les résultats électoraux, mais aussi sur les programmes des différents partis. Et sur les thèmes de campagne. Et quand on voit aujourd'hui les accords de gouvernement régionaux, on voit très clairement l'influence de ces mobilisations, et c'est un des gros succès de ces mobilisations. Et donc moi, je pense vraiment qu'on a effectivement besoin de pouvoir engranger ces succès. C'est pour ça que l'approche qui est de dire « vous ne nous entendez pas, rien avancer, etc. », à mon avis, à un moment donné, risque de se heurter à une sorte de réalité que si les gouvernements font des choses, et je pense qu'ils font quand même malgré tout des choses, et qu'on continue à leur dire « vous ne faites rien et on va vous attaquer », je crains qu'à un moment donné, ça coince.
C'est que les médias, on ne met pas en lumière, comme elle a dit, toutes ces initiatives. Je vois par exemple aux États-Unis, que je suis un peu depuis longtemps, et dans l'État de Connecticut, par exemple, il y a comme un double rail, il y a Trump ou les autres d'un côté, et puis des gens qui produisent localement, des restaurants qui achètent localement, etc. Et ça, personne n'en parle. Et ici, c'est pareil. Par exemple, en Italie, un petit bled dans le nord d'Italie, il trie d'une façon incroyable, mieux qu'à Paris. Hein. Ah non, pas ça là, il faut les laver avant, etc. Tout est... Et personne n'en parle. Et nous, les médias, on n'en parle pas non plus. C'est pas bien. On attend les rapports du GIEC, on attend que l'AFP les dise et qu'ils fassent un résumé, et voilà, on les balance.
Non, ça c'est une erreur. Parce que
bien sûr que c'est une erreur.
Ils écrivent beaucoup d'anneries.
Bien sûr, non, mais je suis d'accord. Ce matin, je suis arrivée, j'étais déjà en mode de mauvais poil, parce que quand j'ai entendu France Info, et pardon si il y a quelqu'un de France Info ici, mais je me suis dit, tiens, je vais arriver, on va me sortir la dépêche de l'AFP, il y a un parcours jusqu'à 11h, mais avant, ils vont dire, il faut faire un papier sur ça, 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 et ça m'a énervée, voilà.
Est-ce qu'on peut rappeler ce qui s'est passé en Belgique, parce que c'est quand même un des plus importants mouvements sociétaux sur le climat qui s'est passé ces derniers mois?
C'est quelque chose qui a pris de façon assez exceptionnelle en Belgique, effectivement, qui a eu la caractéristique de rassembler les deux communautés du pays, et donc qui est devenu un vrai mouvement quelque part politique presque unificateur entre les deux communautés, et qui est détesté et vomi par les nationalistes et les extrémistes flamands, par exemple, qui a véritablement traversé toutes les couches de la population, donc qui n'était pas du tout cantonné juste aux étudiants et dans les manifestations. Il y a par exemple un mouvement très important en Belgique qui s'appelle Grands-parents pour le climat, par exemple, et qui s'est quelque part créé à la suite des mouvements de jeunes et qui rassemble, c'est assez impressionnant, j'ai été faire des conférences pour eux, ils rassemblent des auditoires de 700 ou 800 personnes qui sont tous des personnes retraitées et grands-parents. Et donc on a vu vraiment une influence sur la campagne électorale qui aurait dû, comme dans beaucoup de pays qui étaient partis, pour se dérouler entièrement sur le thème des migrations, et qui d'un coup a complètement changé de braquet, et où la question du climat a quasiment été la seule question discutée pendant toute la campagne, y compris avec certains partis qui ont dû complètement revoir leur plan et se positionner sur la question du climat parce que c'était le thème principal de la campagne. Et donc, il y a eu, je pense que ce qui était très significatif, c'était l'inflexion du Parti libéral belge, qui est un parti de type En Marche, et qui était donc considéré comme un parti assez bourgeois et assez un peu indifférent aux questions d'environnement. Mais je trouve que les électeurs de ce parti avaient quasiment tous leurs enfants qui manifestaient dans la rue et qui effectivement étaient beaucoup plus sensibles que leurs parents et grands-parents à ces questions. Et qui, alors que les jeunes avaient 15, 16, 17 ans ne pouvaient pas voter, par contre entraînaient le vote de leurs parents et de leur famille. Et donc le Parti libéral, dans les sondages d'opinion, était en train de perdre des pans entiers de son électorat au profit des écologistes. Et donc il y a eu quelque part une sorte de retournement complet de veste du Parti libéral qui a dû absolument essayer de stopper l'hémorragie de ses électeurs vers les partis écologistes. Et donc c'était assez intéressant. Et donc pour moi c'est un vrai résultat politique et quelque part une vraie victoire politique que les jeunes ont obtenue, une vraie victoire politique alors qu'ils n'étaient pas en âge de voter.
Et donc finalement le Parlement s'est un petit peu plus verdi qu'il ne l'était. Est-ce qu'il y a eu des déclinaisons législatives
C'est-à-dire que quand on voit maintenant les accords de gouvernement régionaux, on a presque l'impression que le texte de l'accord a été écrit par Greta Thunberg. On verra s'ils y arrivent, mais on a des objectifs qui sont très ambitieux, notamment, y compris en termes de biodiversité, etc. Donc c'est vrai que, sur papier, je dirais, ce sera difficile pour les jeunes de dire qu'ils n'ont pas été entendus ou que l'accord du gouvernement ne répond pas à leurs revendications.
Et vous l'expliquez comment ?
Attends, pardon. Ben veut poser une question depuis un quart d'heure.
Oui, parce que dès qu'il a commencé à parler des grands-pères pour le climat...
Tu t'es senti concerné ?
mais je voudrais m'adresser à la fois à l'auteur de l'Atlas et aussi aux nouveaux membres du GIEC par rapport à ce que moi je considère être un angle mort de tout le processus du GIEC. Bon, ils ont pris des années pour parler des océans, ils ont pris jusqu'à récemment, jusqu'à 2014 pour parler de la sécurité humaine. Est-ce qu'un jour, on va parler de l'empreinte carbone des activités militaires ? Ou est-ce que ceci est un sujet... Non, mais c'est une vraie question. Oui. Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui va pouvoir dire... Ouais, si on parle des énergies fossiles et qu'on sait que le Pentagone est le numéro un dans le monde en termes de consommation, on peut quand même se poser la question, pourquoi il y aurait un tel blocage ? Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, il y a des scientifiques qui vont pouvoir évaluer l'empreinte carbone, par exemple, de certaines activités, au moins des entraînements, s'ils ne peuvent pas le faire pour les conflits ? Est-ce qu'on peut imaginer... est-ce que c'est trop litigieux pour pouvoir un jour...
Ça peut se faire sur le plan scientifique, mais par contre, ça ne figurera jamais dans un rapport du GIEC. Parce que le GIEC est une organisation intergouvernementale, que les sujets et les tables de matière sont choisis par les gouvernements, et je ne vois jamais aucun gouvernement qui validerait un sujet ou une tête de chapitre sur l'empreinte carbone des activités militaires. Déjà, parler de conflits ou de migrations demande des stratégies de finaux et de renards pour le faire avaliser et accepter par les gouvernements. Si vous comparez le rapport que l'AFP a fouetté il y a quelques semaines et la version finale du rapport qui est pour aujourd'hui, vous voyez que la question des migrations a été évacuée parce que jugée trop sensible et trop contentieuse par les gouvernements. Donc sur la question de l'empreinte carbone des activités militaires, non.
Alors je vais poser la question autrement, que j'ai appris en école de journalisme. Si la réponse est mauvaise, c'est que la question a été mal posée. Donc on va réessayer. En termes de comptabilité,
oui.
Par pays,
oui.
on est tous quand même censés donner des chiffres plus ou moins exacts.
Oui, tout à fait.
Si mes informations sont exactes, la délégation américaine avait dit au moment même de Kyoto, il n'est pas question que nous donnions nos chiffres concernant nos 850 bases militaires et le reste.
Oui.
Est-ce que ceci, est-ce qu'il y a d'autres pays, est-ce que, premièrement, est-ce que cette tendance-là a été inversée? Deuxièmement, est-ce que si d'autres pays comptabilisent aussi leurs activités, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui vont se sentir quand même un peu gênés aux entournures?
Sans doute, mais ça reste complètement un point aveugle, y compris parce qu'une série de ces données sont confidentielles, secret défense, et que donc ce qu'on peut faire, c'est des sortes d'approximations scientifiques, mais qui ne figureront pas dans les inventaires du GIEC qui doivent être précis. Mais c'est complètement un point aveugle, effectivement. Et scandaleusement aveugle, mais...
Pour les États-Unis, on a les achats de carburant, en tout cas, sont militaires, sont publics. On sait combien ils consomment, on sait combien la Navy consomme, combien l'armée de l'air consomme. Donc, au moins pour les États-Unis, on peut faire ces calculs-là.
Pour le fonctionnement.
Pour le fonctionnement.
Ouais. Même en France, il y a même un bilan carbone du ministère de la Défense.
Il va bientôt falloir que j'y aille. Qu'on peut prendre
une dernière question.
On a déjà posé plusieurs, c'est parfait. Non, pour rester sur la problématique un peu défense, je ne sais pas si ça a été abordé quand vous étiez à l'IRIS il y a deux jours. Mais est-ce que, je ne sais pas si c'est un champ de recherche actuel, est-ce qu'aujourd'hui, notamment que ce soit dans les milieux militaires ou de sécurité intérieure de France ou d'autres pays, on commence à considérer ou pas une menace sécuritaire qui viendrait des mouvements écologistes ou non?
Un tout petit peu. Ouais. Ça commence à poindre légèrement, et quelques travaux de think tank américains qui pointent effectivement le risque de radicalisation de certains mouvements, le risque d'action violente, et ce qui ramène quelque part 10 ou 20 ans en arrière, notamment quand la DGSE s'inquiétait de José Bové et des démontages de McDonald's ou des fauchages d'OGM. C'est quelque chose qui vient un petit peu aux États-Unis, qui n'est pas encore vraiment mainstream, hein, j'exagérais, mais qui aussi pointe le risque, quelque part, de tension à l'intérieur du pays entre ceux qui pensent qu'on n'en fait pas assez et ceux qui pensent qu'on en fait déjà trop. Avec aussi, et ça c'est un sujet qui sera par contre abordé dans le prochain rapport du GIEC, l'impact des mesures d'adaptation et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre sur les inégalités ou sur des tensions sociales. Donc la question des gilets jaunes et de la taxe sur le diesel sera abordée par exemple.
Sous quelle rubrique ?
Dans la rubrique développement et inégalité. Je prends la dernière.
Juste avant l'apéro, vous avez évoqué tout à l'heure, on a parlé des mouvements de jeunes à l'occasion de la rencontre Jeunes et Climat que la GIE organise justement vendredi matin.
Oui.
Vous commenciez à percevoir au sein de ces mouvements de jeunes des sortes de scissions entre ceux qui veulent radicaliser et ceux qui sont plutôt partisans de garder
une approche consensuelle. Ouais.
Consensuelle avec les États et les institutionnels.
Moi, je la sens très fort. C'est-à-dire que quand on regarde notamment les discussions sur Facebook ou sur Twitter qu'ont les jeunes, et notamment l'apparition d'autres mouvements, donc on a Youth for Climate qui reste un peu consensuel, on a maintenant Extinction Rebellion qui est plus radical, Génération Climat qui est encore plus radical et qui par exemple est pas loin, notamment si on lit certains articles dans la presse militante, certains prônent une alliance avec les Black Blocs par exemple en disant qu'il faut casser physiquement le système, les banques, la police, etc. Je dirais, les jeunes sont pas uniformes, c'est-à-dire que derrière un mot d'ordre qui quelque part les met tous dans la rue, au moment où ils vont se poser la question des choix collectifs et des modes d'action à privilégier, c'est normal que, comme dans toute classe sociale, il n'y ait pas, quelque part, un mode d'action qui soit absolument privilégié à d'autres, d'autant plus que le mouvement se revendique lui-même comme étant, surtout en France, comme étant un mouvement horizontal, sans leader, etc. Et donc, au moment où le sujet devient un vrai sujet politique, c'est normal et logique, évidemment, qu'il y ait une discussion contradictoire sur les modes d'action et sur les approches à avoir. Est-ce qu'il faut sortir du capitalisme? Est-ce qu'on peut rester dans le capitalisme? Sur ce genre de débats qui sont assez, assez fondamentaux, je dirais que le risque, ça c'est évidemment de se couper de pans entiers de la société, notamment en prenant certaines approches trop radicales qui peuvent apparaître comme relativement séduisantes maintenant, mais qui potentiellement, je pense, risquent d'être contre-productives sur le long terme. Et c'est sûr que je comprends que certains jeunes puissent être tentés de se dire « Allez, il faut vraiment taper fort maintenant, il faut mener des actions de désobéissance civile, il faut bloquer des trains, bloquer les sièges de grandes entreprises.
Ah, » oui, parce que jusqu'à présent, il ne s'est pas passé grand-chose en obéissant.
C'est ça, tout à fait. C'est leur réflexion en disant bon, jusqu'ici on a obéi, et finalement il ne s'est pas passé grand-chose, et donc il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Moi, je pense que le risque que ça implique, mais c'est mon ressenti personnel, c'est de se couper de certains pans de la société qui effectivement désapprouvent des actions plus radicales, et de contre, on arrive à des antagonismes qui ne permettent pas véritablement d'engager l'ensemble de la société. Mais c'est relativement logique, je dirais, et presque sain, qu'il y ait une discussion sur différents modes d'action et que potentiellement ces différents modes d'action puissent se compléter les uns les autres. Mais je suis frappé de voir comme Greta Thunberg, par exemple, ne fait plus l'unanimité chez les jeunes, par exemple.
Notamment de droite.
Oui, tout à fait. Je suis désolé, mais il faut absolument que je file. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation, pour la discussion, surtout Valérie qui a pris l'initiative. Et je vous souhaite un très bon apéritif.
Merci. Je dois juste récupérer ma balle et
tout à fait. Ah,
c'est
ça,
oui,
est-ce que le service de presse de Sciences Po diffuse encore?
Oui, pardon. Je voulais vous dire, si certains d'entre vous veulent recevoir une copie de l'Atlas, ils peuvent contacter pascal.montagnon@sciencespo.fr.
Ça marche.
Pascal. Non, pas un homme, Pascal.
Un garçon.
Et Montagnon, comme ça se prononce.
Voilà.
Pascal.Montagnon.
Sciences Po, Sciences au pluriel et PO, d'un coup.fr.
Okay. Merci François, bon dîner.
J'insiste aussi sur le fait que l'éditeur a fait un gros effort sur le prix de l'Atlas.
Oui.
Qui est à 25 euros. Et 25 je trouve que c'est un effort assez notable
parce que c'est effectivement,
de la part d'un petit éditeur scientifique. Je trouve que c'est un gros effort qu'ils ont fait. Voilà, j'étais juste elle.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci François, bonne soirée. Il y a deux enregistreurs. J'ai ici deux enregistreurs, pas chers. J'en ai un autre. Un Samsung d'occasion. Non.
Non. Je crois que c'est la dernière fois, mais c'est bien que j'y sois là.
C'est Yannick qui l'a posé. C'est qui? Bah oui, Yannick, où es-tu?
Je trouve que l'entreprise réussit. L'humain avait la dimension la question de l'anthropocène qui est une vraie chose, enfin une vraie chose. Oui, une terminologie qui a été posée à un moment donné. Ah ben nous, enfin nous, les hommes,
il reste encore à voir.
Non mais oui, il a mis à sa dimension non seulement la dominion de la nature, mais en plus il s'octroie un âge sur cette pauvre planète, dans ce pauvre univers. Et après, on l'appelle l'anthropocène à l'échelle de l'anthropocène.
Tu m'as mangé ma question sur la Belgique, mais j'aurais aimé qu'on prolonge là-dessus parce que c'est vachement intéressant.
Il faut l'appeler sur le parallèle entre
les
liens
tarifaires
là-dessus.
Après l'anthropocène,
C'est un hôtel qui était créé par Franck Lavage, qui a
deux bagages. Vous allez bien, régulièrement vos articles sur les réseaux
sociaux.
C'est bon, t'as arrêté l'enregistrement.
Je n'ai pas compris le sens dans lequel tu l'as.